bise pleurait, avec lui sanglotait.
La bise pleurait, avec lui sanglotait.
Ce que disait l'oiseau, l'oiseau du champ fauve.
L'oiseau, l'oiseau.
Ce que disait l'oiseau, l'oiseau du champ fauve.
L'oiseau, l'oiseau.
Dans le champ fauve, c'était.
Bonsoir, nous vous proposons ce jour une série d'émissions consacrées à Louise Michel. Il s'agit à la fois d'une évocation et d'un hommage au long cours à Louise Michel. Nous parlerons de sa vie, de ses combats et de son œuvre, et nous utiliserons un grand nombre de documents sonores de diverses origines. En introduction, vous avez pu entendre une version d'un chant traditionnel de Haute-Marne, l'oiseau noir du champ fauve, interprété par Michel Bernard, un extrait du spectacle La cantate pour Louise Michel, avec les percussions de Tréfort et l'ensemble vocal Résonance contemporaine sous la direction musicale d'Alain Goudard. Après cette présentation, nous vous proposons d'entendre une création d'une chanson de Pierre Desjaeter, La Vierge Rouge, création par André Bonhomme dans cette version inédite pour Radio Canut. André Bonhomme est accompagné au piano par Emmanuel Bonhomme. Bonne écoute.
La Vierge rouge dans le cœur est disparue de cette terre. Ce cœur si noble de douceur pour l'humanité fit la guerre contre l'abus de l'exploiteur. Ce beau génie dès son enfance guida partout le travailleur en répétant plein de confiance pour nous les braves travailleurs. Nous les mourants de la misère, ne doit-on pas unir nos cœurs vers le progrès et la lumière, d'apprendre à nos petits-enfants à devenir propagandistes, à chanter d'un air triomphant les fameux chants socialistes. Pleine de savoir et de bonté, tu conduis l'enfant dès l'école, l'oppresseur te fit déporter et plus tard te traita de folle. Dans ton exil enchaîné, tu supportas toute souffrance, mais l'amnistie t'a ramené. Tu t'écrias si tôt en France, pour nous les braves travailleurs, nous les mourants de la misère, ne doit-on pas unir nos cœurs vers le progrès et la lumière, d'apprendre à nos petits-enfants à devenir propagandistes, à chanter d'un air triomphant les fameux chants socialistes. Toute ta vie fut sacrifiée au droit commun et la justice, comme le Christ fut crucifié. Tu as subi tout un supplice, le peuple reconnut les droits que proclama la pauvre femme. Malgré sa tendre et douce voix, elle nous dit le cœur en flamme. Pour nous les braves travailleurs, nous les mourants de la misère, ne doit-on pas unir nos cœurs vers le progrès et la lumière, d'apprendre à nos petits-enfants à devenir propagandistes, à chanter d'un air triomphant les fameux chants socialistes.
À vrai dire, je ne sais pas ce qui m'a poussé à partir ainsi sur les traces de Louise Michel. Peut-être le sentiment que je lui devais bien ça. Si je chante aujourd'hui, c'est parce que des femmes comme elle ont tapé du poing sur la table pour faire entendre leur voix il y a plus de 100 ans. À l'époque, c'était pas facile, ainsi que pour avoir une chance de se faire publier et éditer. Louise Michel signait souvent Louis Michel. Maintenant, nous pouvons garder le E à nos prénoms et à nous. Michel, c'est le nom de sa mère, servante au château de Vroncourt en Haute-Marne. Son père, on ne sait pas bien, sans doute le châtelain, premier mystère. Et moi, en faisant refaire mon passeport, je me suis aperçue que mon deuxième prénom, c'était Louise. Ainsi, je voyage sous le nom de Michel Louise. Et des voyages, on en a fait beaucoup, Louise Michel, et quelquefois, ce n'était pas vraiment des voyages d'agrément. Alors, je vous propose de partir aussi en voyage au fond de ce 19e siècle, dans cette Haute-Marne où Louise Michel a commencé sa vie, entre les arbres et les livres. Elle a commencé sa vie en sauvageonne et elle a découvert très vite la cruauté des hommes envers les animaux. Et puis, la cruauté des hommes envers les hommes, que déjà elle refuse.
Je n'ai jamais franchi nos paisibles villages, et cependant mon front est avide de rage. Seigneur, Seigneur mon Dieu, livre mon aile au vent. Ou bien rends-moi semblable aux paisibles enfants que nulle voix n'appelle au soir dans les nuages. Où l'horizon est beau,
l'horizon,
où je vais, je ne sais,
je ne sais,
où l'horizon est beau. Une fanfare sonne, étrange, sombre et fière, et bien d'autres y vont que je retrouverai. Écoutez, on entend des pas lourds sur la terre. C'est une étape humaine, avec cela j'irai.
J'aime l'ombre du clos tout plein de folles herbes, où dans les nuits d'hiver les loups viennent hurlant par les brèches du mur. L'été les loups recherchent,
et dans les chênes verts.
Cependant mon front est avide d'orage. Seigneur, Seigneur mon Dieu, livre mon aile au vent. Ou bien rends-moi semblable aux paisibles enfants que nulle voix n'appelle au soir dans les nuages.
Va t'endormir dans le cimetière.
Va t'endormir dans le
va
cimetière.
T'endormir dans va le t'endormir cimetière. Dans le cimetière.
Petit homme t'endormir dans le cimetière.
Petit homme qui n'a pas de père.
Petit homme qui n'a pas de père.
J'éprouve à parler de moi une répugnance pareille à celle qu'on éprouverait à se déshabiller en public. J'avoue qu'il y aura du sentiment. Nous autres femmes, nous n'avons pas la prétention d'arracher le cœur de nos poitrines, Mais trouvons l'être humain, j'allais dire la bête humaine, assez incomplet comme cela. Nous préférons souffrir et vivre par le sentiment aussi bien que par l'intelligence. Je suis ce qu'on appelle bâtard. Mais ceux qui m'ont fait le mauvais présent de la vie étaient libres, ils s'aimaient. Et aucun des misérables contes faits sur ma naissance n'est vrai, mais ne peut atteindre ma mère. Jamais je n'ai vu de femme plus honnête. Ma mère, Marianne Michel, fille d'une veuve restée avec 6 enfants, fut élevée au château de Broncourt, en Haute-Marne. Elle m'a souvent raconté sa vie craintive de petite fille, transportée du nid, mais combien elle aimait ceux qui l'élevèrent avec leurs filles et leurs fils, plus tard mon père. À chaque événement dans la famille, ma grand-mère paternelle en écrivait la relation sous forme de vers, dans 2 gros recueils. Le grand-père y avait ajouté quelques pages. Et moi-même, encore enfant, j'osais commencer une histoire universelle parce que cette bossuée m'ennuyait. Il devait se trouver de fameuses âneries dans mon travail. J'avais consulté assez de livres infaillibles pour cela. J'avais mon luth, un horrible instrument que j'avais fait moi-même avec une planchette de sapin et de vieilles cordes de guitare. C'est cet instrument barbare dont je parlais pompeusement à Victor Hugo dans les vers que je lui adressais. Il n'a jamais su ce que c'était que ce luth du poète, cette lyre dont je lui envoyais les plus doux accords. Mon grand-père, Monsieur de Maïs, tantôt ironique comme Voltaire, le maître de son époque, gai et spirituel comme Molière, m'expliquait les divers livres que nous lisions ensemble. Nous parlions des choses qu'il voyait monter à l'horizon. Nous regardions dans le passé les étapes humaines, dans l'avenir aussi. Et souvent, je pleurais, empoigné par quelques vives images de progrès, d'art ou de science. Et lui, de grosses larmes dans les yeux, poser sa main sur ma tête, plus ébouriffée que celle de notre vieille jument Presta. Jamais je n'entendis de missionnaire plus ardente que ma tante. Elle avait pris du christianisme tout ce qui peut entrer. Les hymnes sombres, les visites le soir aux églises noyées d'ombre. Elle me faisait joindre les mains et répéter « Ave Maria » quand l'Angélus sonnait dans les branches. À cette heure, j'ai toujours eu envie de m'envoler au ciel. J'écoutais à la fois ma tante, catholique exaltée, et les grands-parents voltairiens. Je cherchais, ému par des rêves étranges, ainsi l'aiguille cherche le nord, affolée dans les cyclones. Ma mère était alors une blonde, aux yeux bleus, souriants et doux, aux longs cheveux bouclés, si fraîche et si jolie, que les amis lui disaient en riant « Il n'est pas possible que ce vilain enfant soit à vous. » Cela m'amusait qu'on me trouve à l'aide. Ma pauvre mère s'enfroissait quelquefois.
Un chant dans une nuit sans air, la lune plaque en métal clair les découpures du verre sombre. Un chant, comme un écho tout vif, enterré là sous le massif. Ça se tait. Viens, c'est là, dans l'ombre. Un crapaud. Pourquoi cette peur près de moi, ton soldat fidèle? Vois le poète tondu sans aile, rossignol de la boue. Horreur. Il chante. Horreur. Horreur pourquoi? Vois-tu pas son œil de lumière? Non. Il s'en va, froid, sous sa pierre. Bonsoir. Ce crapaud-là, c'est moi.
Le nid de mon enfance avait 4 tours carrées de la même hauteur que le corps du bâtiment, avec des toits en forme de clocher. Autrefois, on l'appelait la maison forte. Au temps où nous l'habitions, je l'ai souvent entendu nommer le tombeau. C'était une vaste ruine où le vent soufflait comme dans un navire. Les loups, au temps des grandes neiges, entrant par les brèches du mur, venaient hurler dans la cour. Les chiens leur répondaient, furieux. Et ce concert durait jusqu'au matin. Il allait bien à la ruine. Et j'aimais ces nuits-là. Je les aimais surtout quand la bise soufflait fort et que nous lisions, bien tard, toute la famille réunie près du feu dans la grande salle. Il faisait un froid glacial dans ces salles énormes. Nulle part, je ne vis si longue que dans la haute Marne, la saison des frimards. Jamais je n'ai senti, à part dans les mers polaires, un froid plus âpre. À Goncourt, on est séparés du monde. Le vent ébranle le vieux clocher de l'église et les vieilles tours du château. Il courbe, comme une mer, les champs de blé mûr. L'orage fait un bruit formidable. Et c'est là tout ce qu'on entend. Cela est grand et cela est beau.
Au pied de la stèle, c'est marqué pour tout renseignement,
Sur Louise Michel, adressez-vous à tel endroit, à la rue principale. Alors, je suis allée, un monsieur m'a reçu, et du tiroir de la table de sa salle à manger, en soulevant la nappe, il a sorti une carte postale. C'était la carte postale du château où a vécu Louise Michel. Alors j'ai pris la carte postale et puis je suis sortie dans le village à la recherche du château. Il avait disparu.
L'écriture sur la lettre que l'on vient de recevoir. C'est si doux de la relire, de la respirer, de rire, en tournant dans la maison. Puis s'asseoir soudain plus calme, pour approcher de la flamme ses ailes de papillon. Je regarde la fenêtre où vous allez apparaître, j'y cogne comme un oiseau. Un bruit de pas qui approche, puis soudain contre la cloche, vos trois coups comme un cadeau. Tout cela que j'imagine, c'est un ruisseau qui chemine dans le désordre du cœur. Permettez que j'en profite, après tout ira si vite, quand viendront le jour et l'heure. Prévenez-moi bien, n'en arrivez pas trop vite, quand vous me rendrez visite de votre pays si loin.
Ma grand-mère avait élevé chez elle la fille d'une pauvre veuve. Son fils l'aima, puis l'abandonna. Elle et son enfant, c'était ma mère et moi. Tout le monde nous repoussait, mais malgré leur fils, les deux vieillards nous ont tendu les bras. Il se passa alors, m'a-t-on dit, des scènes affreuses entre tous les membres de la famille, et moi j'étais la cause de tout cela sans même le savoir. Voilà pourquoi on me méprise, Hugo. Je ne puis vous dire toutes les impressions de mon enfance. C'est un mélange de douleur, de joie, de rêve, de destinée, de cette idée de la fatalité à laquelle croyait ma mère. Je me rappelle qu'un jour, une vieille femme me berçait dans ses bras en disant « Va dormir dans le cimetière, petite. » Ces paroles me sont toujours restées dans le cœur comme une malédiction. Une autre fois, c'était des jeunes filles qui me disaient en riant « Va-t'en chez ton père. » Et qui riaient plus fort parce que je pleurais. Il y a dans ses souvenirs d'enfance un mélange de figures sinistres, douces, grotesques, qui me frappent encore. Ainsi, c'est une vieille religieuse qui me faisait joindre les mains et répéter Ave Maria quand l'Angélus sonnait dans les branches et que les étoiles brillaient. À cette heure, j'ai toujours eu envie de m'envoler au ciel. Souvent, ma grand-mère pleurait de mes rêves. Elle disait que cela me porterait malheur, comme à elle qui avait cette âme de feu, et dont la vie n'avait été qu'une torture. Puis c'est la figure sérieuse et pédante du vieux maître d'école, son indignation en voyant sur mes cahiers d'arithmétique d'immenses rondes de diables et de chiffres ailés, ou portant des grelots et des queues formant des bigarrures de toutes sortes. C'était vraiment un monde burlesque, parmi lequel se trouvait régulièrement sa caricature montrant le poing à la page. Il y a encore le vigneron nain, bossu et boiteux, et un homme d'une taille gigantesque dont les bras étaient couverts de soleil et qui faisait rêver de brigands. Puis encore une petite fille aux grands yeux bleus, Élise Berthaud, la fille du fermier, qui ressemblait au tableau de Marie. Et au milieu de tout cela, la figure sombre de mon père qui se dressait devant moi de temps à autre, à qui je tendais les bras et qui me repoussait. Alors on me disait, c'est que tu n'es pas assez sage, sans cela ton père t'aimerait. Et j'attendais toujours. Et au milieu de tout cela, un écho du ciel qui m'aurait répondu. Je vous ai dit, je crois, comment pour la première fois j'ai lu l'ode à la bande noire. Écoute, Olympio, Dieu fit nos âmes sœurs, et n'eut qu'un même souffle en créant nos deux cœurs.
Pas morne, non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes. Sur la terre étendue, l'air était plein d'encens et les prés de verdure. Quand il revit ces lieux où par tant de blessures son cœur s'est répandu, l'automne souriait, les coteaux vers la plaine penchaient leur bois charmant qui jaunissait à peine. Le ciel était doré et les oiseaux tournaient vers celui que tout nomme, disant peut-être à Dieu quelque chose de l'homme. Chantaient leurs chants sacrés. Il voulut tout revoir, les temps près de la source, la masure où l'aumône avait vidé leur bourse, le vieux frêne plié, les retraites d'amour au fond des bois perdus, l'arbre où dans les baisers leurs âmes confondues avaient tout oublié. La maison isolée, la grille d'où l'œil plonge en une oblique allée, les vergers en talus pâle, il marchait au bruit de son pas grave et sombre. Il voyait à chaque arbre, hélas, se dressait l'ombre des jours qui ne sont plus. Il entend des frémir dans la forêt qu'il aime, ce doux vent qui faisant tout vibrer en nous-mêmes. Il réveille l'amour et remuant le chêne, ou balançant la rose semble l'âme de tout qui va sur chaque chose se poser tour à tour. Contempla longtemps les formes magnifiques que la nature prend dans les champs pacifiques. Il rêva jusqu'au soir, tout le jour il erra le long de la ravine, admirant tour à tour le ciel face divine, le lac. Se rappelant ses aventure, regardant sans entrer par-dessus les clôtures. Ainsi qu'un paria, il erra tout le jour. Vers l'heure où la nuit tombe, il se sentit le cœur triste comme une tombe. Alors il s'écria: que peu de temps suffit pour changer toutes choses. Nature au front serein, comme vous oubliez et comme vous brisez dans vos métamorphoses les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. De feuillage en alliés sont changés. L'arbre où fut notre chiffre est mort ou renversé. Nos roses dans l'enclos ont été ravagées par les petits enfants qui sautent le fossé. Un mur clos la fontaine où parleur échauffé, folâtre elle buvait en descendant des bois. Elle prenait de l'eau dans sa main douce fée et laissait retomber des perles de ses doigts. Semblait rire à côté du mien. La borne du chemin qui vit des jours sans nombre, où jadis pour m'entendre elle aimait à s'asseoir, s'est usée en heurtant lorsque la route est sombre. Les grands chars gémissant qui reviennent le soir. La forêt ici manque et là s'est agrandie. De tout ce qui fut nous, presque rien n'est vivant. Et comme un tas de cendres éteintes et refroidies, l'amas des souvenirs se disperse à tout vent. Car personne ici-bas ne termine et n'achève. Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve. Commençant ce monde et tout finit ailleurs. L'amas des souvenirs
se... Hugo, qu'importe la distance entre nous, mon âme est un rayon de la vôtre. Avez-vous éprouvé parfois de ces instants où l'âme brise le corps? Tout me semble comme un rêve. Mais c'est peut-être le rêve qui est la vie. J'en suis venue à douter de tout, même de la réalité de l'existence. Tout ce que je vous dirai ne sera qu'entre Dieu et nous. Voici l'histoire de ma vie. Ma grand-mère paternelle, Madame de Maïs, avait élevé chez elle la fille d'une pauvre veuve. C'était ma mère. Son fils, le fils de ma grand-mère paternelle, l'aima, lui fit un enfant, moi, puis l'abandonna, elle et son enfant. Tout le monde les repoussait. Mais malgré leur fils, les deux vieillards nous ont tendu les bras. Il se passa alors, m'a-t-on dit, des scènes affreuses entre tous les membres de la famille. Et moi, j'étais la cause de tout cela. Voilà pourquoi on me méprise, Hugo. Je ne puis vous dire toutes les impressions de mon enfance. C'est un mélange de douleur, de joie, de rêve, de destinée et de cette idée de la fatalité à laquelle croyait ma mère. Je me rappelle qu'un jour, une vieille femme me berçait dans ses bras en disant « Va dormir dans le cimetière, petite !» Ces paroles me sont toujours restées dans le cœur comme une malédiction. Au milieu de tout cela, la figure sombre de mon père, qui se dressait devant moi de temps à autre, à qui je tendais les bras et qui me repoussait. Alors on me disait, c'est que tu n'es pas assez sage. Sans cela, ton père t'aimerait. Mon père avait deux enfants. Quelquefois, il les amenait à la maison. Et moi, leur sœur, je n'osais même pas les embrasser. Tout cela dura pendant quelques années. Puis je vis mon père revenir peu à peu à moi. Les enfants s'attachaient à ma robe et pleuraient de me quitter. Et lui me témoignait autant de tendresse qu'il m'avait témoigné de froideur. Mon grand-père mourut. Il avait toujours été un peu de l'école de Voltaire, et on n'avait pas demandé de prêtre. Au moment de sa mort, je me consacrais entièrement à Dieu pour sauver son âme. Et cependant, entre nous, Hugo, je ne puis croire à l'éternité de l'enfer. Après la mort de mon grand-père, ma tante revint à la maison. C'était pour y mourir aussi. Et après elle, mon père. Il me semblait que je leur portais malheur à tous. Je ne veux plus penser à tout cela. Il y a cependant encore une de mes peines qu'il faut que je vous dise. Celle-là est horrible. C'est de douter de la franchise de ma mère. Mon père soutenait que j'étais sa sœur et non sa fille. Je ne le crois pas. C'est une pensée horrible que vous seul saurez jamais et que je veux écarter de moi car il me semble que c'est un crime envers ma mère si bonne et si franche. Je voudrais être cachée au fond d'un bois où je ne verrais que ceux que j'aimerais, avec des remparts impénétrables pour tous les méchants et les calomniateurs. Quelques fortifications faites qui les repousseraient de mon lit.
À leurs petits-enfants, les grands-mères bretonnes construisent un nid tout chaud de rêves et de cretonnes et leur mettent au foyer des châtaignes à péter. Puis quand elles ont fini leur conte interminable, elles tirent les rideaux et desservent la table. Tout le monde se couche avec le feu qui meurt dans des draps rêches et plein d'odeurs. J'ai entendu ailleurs que les mémés kabyles, quand elles font la veillée au milieu des loupiots, disent que ma chanson coule comme un long fil. Puis quand elles ont fini, une main sur le cœur, ravie d'avoir ravi leur petit spectateur, elles disent ma chanson était comme un ruisseau, je l'ai chantée pour des seigneurs. L'enfance est vide de ce genre d'ambiance attentive et limpide. La première mourut longtemps avant la guerre. L'autre me détestait de haine singulière. Elle m'appelait petit bâtard, j'avais 12 ans. Je lui répondais crève bourrique entre mes dents. J'y pense encore en frissonnant. Elle mourut en été, quand j'étais en vacances. J'aurais dû prévoir ça, revenir en avance, pour lui crier au seuil du deuil, bon vent mémé. Le prêtre aurait lancé un regard indigné, ma tante aurait sifflé, mesquin petit salaud, papa m'aurait cassé sa canne sur le dos. Les grands ont très peur de l'enfance. Quand elle passe avec insolence.
Je n'ai rencontré jamais d'enfant à la fois aussi sérieux et aussi fou. Aussi méchant et craignant autant faire de la peine, aussi paresseux et aussi piocheur que mon cousin Jules et moi. Je suis étonnée maintenant des questions de toutes sortes que nous invitions, Jules et moi, tantôt perchés chacun dans un arbre où nous suivions les chats, tantôt nous arrêtant pour discuter au milieu d'une répétition de quelques drames de Hugo que nous arrangions pour deux personnages. Pourquoi aimions-nous causer d'un arbre à l'autre? Je n'en sais vraiment rien. Il faisait bon dans les branches. Après une répétition, je crois dernière nuit, dans une discussion orageuse sur l'égalité des sexes, Jules prétendait que si j'apprenais dans ses livres pour garçons, apportés aux vacances à peu près de manière à être de niveau avec lui, c'est que j'étais une anomalie. Nos luttes servant de projectile, se brisa dans nos mains au milieu du combat.
Avec mon cousin Jules, on grimpait dans les arbres pour se jeter des pommes et réciter des vers. Des poèmes barbares aux fabuleux héros, des sorcières, des bagnards, et puis Victor Hugo.
Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Avec mon cousin Jules, on était des sauvages, de chevaux emballés, cafant dans les orages. Offrant nos poésies à un public de chats, de poulets, de perdrix et la jument brusca.
Le vent qui court à travers la montagne me rendra fou.
Jules, on faisait des fagots, un jour pour le bûcher, un jour pour l'échafaud.
Un jour pour le bûcher, un jour pour l'échafaud.
On montait gravement l'escalier fatidique pour mourir en criant « Vive la République !» Sentant pour nous deux un destin héroïque, plein de larmes et de feu et d'étranges musiques. Et nos têtes roulaient sur un public de chats, de perdrix, de poulets et la jument brusca.
Le vent qui court à travers la montagne me rendra fou.
Derrière le puits, on mettait des tas de fagots. Cela servait à élever un échafaud. Nous y représentions les époques historiques et les personnages qui nous plaisaient. Nous avions 1093 en drame et nous montions l'un après l'autre les degrés de notre échafaud où l'on se plaçait en criant « Vive la République !» Le public était représenté par la jante emplumée qui faisait la roue, ou picorait et gloussait. Comme nous montions un jour sur notre échafaud en chantant, mon grand frère nous fit observer qu'il valait mieux y monter en silence et faire au sommet l'affirmation du principe pour lequel on mourait. C'est ce que nous faisions.
Député Guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine. Voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. À force de comploter lors de mutines, à gagner sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine au guet, à la guillotine. de la France, on a chassé la noble vermine. On a tout rasé, cassé et mis tout en ruine. Mais le noble, on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine gay, par la guillotine, par la guillotine gay, par la guillotine.
La vue du roi décapité, blanche, avec des gouttes de sang sur les plumes, marchant comme ivre, tandis qu'à terre gisait sa tête, eut pour moi des conséquences multiples. Je dis sans doute bien petit. Il m'eût été impossible alors de raisonner cette impression, mais je la retrouve au fond de ma pitié pour les animaux, et puis aussi au fond de mon horreur pour la peine de mort.
Il était impossible avec tout cela de ne pas jeter ma vie à la révolution.
Le monde n'est pas doux, le monde n'est pas tendre, pas tendre. Couper une grenouille en deux,
pas doux.
La voir se traîner au soleil,
pas doux.
Les yeux horriblement sortis, cherchant à s'enfouir sous la terre, pas doux, pas doux. Écrasé d'un coup de sabot,
pas doux.
Un chaton qui passait par là,
pas doux.
Et balancé aux écrevisses, un chien trop vieux pour être utile,
pas doux, pas doux, pas doux, pas doux.
Et le bon Dieu qui n'a rien dit, et le bon Dieu qui n'a rien dit.
Pourquoi parler comme ça, petit? Ça fait pleurer le bon Dieu. Faut pas parler comme ça, petit. Ça fait pleurer le bon Dieu.
Le monde n'est pas doux, le monde n'est pas tendre, pas tendre. Rire de loi décapité, qui marche encore et qui s'affole, tandis qu'à terre gît sa tête, les yeux fermés là dans un coin. Tendu vers le couteau, le grand silence du troupeau, le grand silence du troupeau.
Faut pas parler comme ça, petit. Ça fait pleurer le bon Dieu. Faut pas parler comme ça, petit. Ça fait pleurer le bon Dieu.
Le monde n'est pas doux. Je ne serai pas tendre, pas tendre.
J'avouerai encore que je prenais sans remords à la maison étant enfant, depuis l'argent, quand j'en avais, jusqu'aux fruits, légumes, etc. Je donnais tout cela au nom de mes parents, ce qui faisait de bonnes scènes, quand certaines gens s'avisaient de remercier. J'en riais, incorrigible que j'étais. Une année, mon grand-père me proposa 20 sous par semaine si je voulais ne plus voler. Ah, mais je trouvais que j'y perdais trop. Il fallait autre chose que la charité pour que chacun ait du pain. Quant aux riches, ma foi, je les respectais peu. Alors, le communisme me vint à l'idée.
Déjà qu'à un an, ses parents poussaient son landau en gueulant pour Vanzetti et pour Sacco. Il a grandi sous une banderole, entre une affiche et un saut de colle. La moindre manif, il y go, sacré coco. 70 piges et des poussières qui balaient chaque anniversaire avec des miettes et des mégots. Comme il dit, je suis un dinosaure, on cherchait pas le même trésor. C'est là qu'on n'est pas ex aequo, sacré coco. Il dit aussi, juré, craché, même si j'étais haricotier, je bosserais pas pour des haricots. Et si ça arrange leurs affaires, demain pour la classe ouvrière, je porterai des godasses en croco, sacré coco. Il dit même pour les non-voyants, il faudrait écrire les slogans braille sur les calicots. En classe, il a pas été loin, mais ils connaissent sur le coup des poings Cézanne, Beethoven et le père Hugo. Sacré coco. On entre chez lui sans frapper, là où c'est écrit « J'aime la paix » au 36 rue des Coquelicots. On sirote un alcool de fruits en rigolant, il dit que chez lui c'est le temps des cerises en bocaux. Sacré coco. On chante la jeune garde à tue-tête quand c'est des fois que sous sa casquette souffle un vieux coup de sirocco. Et le lendemain, sa gueule de bois sûr, c'est la faute à Paribas, USA, Monopole & Co. Sacré coco. Pour la castagne, il crie d'accord. Pour la fiesta, il crie d'abord. Et pour le cul, il crie banco. Il dit encore, s'il fait froid, lutte à l'envers, lutte à l'endroit. Se battre, c'est se faire son tricot. Sacré coco. Y a pas de sans-culotte au ciel. Comme il dit, je suis pas éternel. D'ailleurs, Dieu, c'est du rococo. Quand je serai mort, juste un bouquet rouge, des chansons et des gens qui bougent pour que le vent reprenne un écho. Sacré coco.
Vers l'âge de 12-13 ans, deux êtres ridicules m'avaient l'un après l'autre demandé en mariage à mes grands-parents. Le premier prétendant me faisait si bien l'effet du tuteur d'Agnès que je trouvais moyen de lui glisser à propos une grande partie de la scène où il dit « Le petit chat est mort ». Je lui avais même répondu cela bout d'un mot. Hein. Mais il ne comprenait pas. Alors, on disait sport de cause. Je le regardais bien en face et avec la naïveté d'Agnès, je lui dis effrontément « Monsieur, est-ce que l'autre est en verre aussi ?» Il avait un œil de verre. Mes parents me semblèrent un peu gênés. Lui, de l'œil qui n'était pas en verre, me lança un regard venimeux et il n'avait plus envie de faire de moi sa fiancée. Molière m'inspira également pour le second. Celui-là, je lui tins à peu près ce discours. Vous voyez bien ce qui est là au mur ? C'était une paire de cornes de cerf. Eh bien, je ne vous aime pas. Ah, je ne vous aimerais jamais. Et si je vous épousais, je ne me gênerais pas plus que Madame Georges Bondin. Vous emporteriez 100 000 pieds plus haut que cela sur votre tête. Et il ne revint jamais. J'ai toujours regardé comme une prostitution, toute union, sans amour.
Monsieur Chaumette au club lançait ses propos de calibre. Il est bête ce Condorcet qui veut la femme libre. Molière avait 100 fois raison, la paridondaine, la paridondon. Quelle tricote, ça suffit, biribi,
à la façon de Barbarie, mon ami.
Bonaparte qui vint après leur fils monologue. Femme instruite à peu près n'est qu'une idéologue. Il faut la mettre à Charenton, la paridondaine, la paridondon. Qu'elle fabrique des conscrits biribi
à la façon de Barbarie, mon ami.
En 48 on reparla, il faut bien que l'on cause. Puisque nous y sommes, proclamons quelque chose. Les droits de la femme à London, la faridondaine, la faridondon. Les droits de l'homme, ça suffit, biribi,
à la façon de Barbarie, mon ami.
En 1900, nos bons bourgeois remontent sur la table. Mesdames, vous avez des droits, ça c'est incontestable. Mais quant à l'application, la paridondaine, la paridondon, n'en parlons pas pour aujourd'hui, biribi,
à la façon de Barbarie, mon ami.
Vous travaillez, c'est entendu, vous méritez salaire. Travailler n'est pas défendu à la femme, au contraire. Mais le salaire, qu'en fait-on, la faridondaine, la faridondon? Ce sera pour votre mari, biribi,
à la façon de Barbarie, mon ami.
Enfin, mesdames, voulez-vous trancher tous ces problèmes? Ne comptez jamais entre nous, jamais que sur vous-même. Portez culotte sans façon, la paridondaine, la paridondon. Portez le bonnet rouge aussi, biribi,
à la façon de Barbarie, mon ami.
Ainsi se termine cette première émission d'une série consacrée à Louise Michel pour à la fois évoquer sa vie, ses luttes et lui rendre hommage. Au fil de celle-ci, vous avez pu entendre les documents et illustrations musicales suivantes. Des extraits de la cantate pour Louise Michel de Michel Bernard, avec les percussions de Tréfort et l'ensemble vocal Résonance Contemporaine, sous la direction musicale d'Alain Goudard. Puis, c'était la chanson « Je n'ai jamais franchi », un texte de Louise Michel, mis en musique et interprété par Michel Bernard. Puis, un extrait qui sera suivi d'autres de la création théâtrale de la compagnie Humbert, « La Vierge Rouge ». Ensuite, vous avez pu entendre « Le crapaud », un poème de Tristan Corbière, dit par Glenmore. Ensuite, vous avez pu entendre la chanson « Carte postale » de Michel Bernard, qu'elle interprétait. Après le témoignage parlé de Michel Bernard, nous avons écouté sa chanson « Quand vous me rendrez visite ». Ensuite, un extrait de lecture de l'aide de Louise Michel, des extraits d'une émission de France Culture que nous remercions. Puis c'était « La tristesse d'Olympio », un poème de Victor Hugo, mis en musique et interprété par Alain Logénie. Poème extrait des rayons et des ombres. Ensuite, vous avez entendu Jean-Claude Rémy qui interprétait sa composition « Les Mémés ». Puis à nouveau, c'est Michel Bernard qui interprétait sa composition « Avec mon cousin Jules », un autre extrait de la cantate. Ensuite, vous avez pu entendre « La guillotine permanente », chanson révolutionnaire interprétée par Catherine Ribeiro. Puis, un nouveau extrait de la cantate pour Louise Michel, la chanson « Pas doux », composition, paroles et musique et interprétation de Michel Bernard. Ensuite, vous avez pu entendre Francesca Solville qui chantait Alain Leprest pour les paroles, Gérard Piron pour la musique, Sacré Coco. Puis un autre extrait du spectacle de la compagnie Humbert. Et enfin, Chantal Grimm interprétait La Femme Libre, le texte de M. Bouquet mis en musique par Arthur Marcel Leguet. Nous vous proposons de retrouver la suite de la vie et des luttes de Louise Michel lors d'une future émission. Bonsoir. Thank you.